Les colloques du Collège de France.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Donc je m'appelle Anne-Claudine Hollaire et effectivement je suis aussi maîtresse de conférence au LIRTES et à Créteil, donc on est quand même nombreux à être de cette université aujourd'hui. Je vais vous présenter mon travail autour du coaching scolaire en tant que marché de la réalisation de soi. Et effectivement, j'ai publié donc ce livre au PUF il y a quelques années. Ce que je vais dire là en introduction, ça rejoint pleinement ce que vous avez également dit dans l'introduction de ce colloque, c'est que il y a des enjeux très forts qui existent, qui sont de plus en plus prégnants autour de la scolarité, et c'est ce qui crée ce contexte d'émergence du coaching scolaire. Donc le coaching scolaire, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un accompagnement non disciplinaire de la scolarité, c'est-à-dire qu'on n'y fait pas des mathématiques, on n'y fait pas du français, on n'y fait pas de l'histoire, de la géographie, etc. C'est un accompagnement non disciplinaire qui, en fait, reprend, je le dirai encore un peu plus loin, mais les techniques du coaching d'entreprise, et donc qui s'intéresse aux objets proches que celui qui est travaillé dans le coaching d'entreprise, à savoir, par exemple, mais appliqué à l'école, donc à savoir, par exemple, la motivation, la gestion du stress, la confiance en soi, l'organisation du temps de travail. Et puis, il y a aussi des fractions du coaching que je présenterai un petit peu plus loin. Donc, mon travail, il a visé à interroger l'usage du coaching scolaire et comment il est utilisé par une fraction des classes moyennes, cerner comment il se constitue, comment il devient un véritable marché scolaire et éducatif. Donc, pour cela, je me suis appuyée sur une enquête qualitative avec des entretiens semi-directifs auprès de jeunes coachés, de coachs, de parents de coachés. J'ai aussi analysé des dossiers de coachés que des coachs m'ont donné à voir, ce qui m'a permis de faire des, on va dire, pas des statistiques, mais en tout cas des petits pourcentages de dresser des tendances. Et j'ai aussi fait des observations de séances de coaching. Donc, quelles sont en fait les conditions d'émergence du coaching scolaire ? Je vais balayer ces conditions-là de façon un peu rapide, puisqu'on en a déjà parlé au début de la journée. On est sur un marché du travail qui connaît un certain nombre d'évolutions libérales, où on porte la plus grande responsabilité de sa réussite scolaire, sociale, sur l'individu, une peur croissante et renforcée du chômage, aussi, comme cela a bien été dit, la peur de ne pas pouvoir se maintenir socialement, donc le poids des diplômes est renforcé par l'importance de ce fait-là aussi, de faire les bons choix d'orientation. On est dans un contexte scolaire où si le poids des diplômes est renforcé et que l'enjeu est de se maintenir socialement, c'est aussi un enjeu pour les parents que leur enfant se maintiennent. Et donc, on constate que l'école, l'éducation, les résultats scolaires, l'orientation, parce que c'est ce qui permet c'est ce qui est pensé comme le processus permettant d'intégrer le marché du travail, eh bien, favorise les angoisses parentales et même alimente les tensions parentales. C'est aussi un contexte d'émergence, enfin le contexte d'émergence du coaching scolaire est aussi lié à un contexte particulier au sein même du système éducatif. Les deux points présentés précédemment étaient plutôt sur un contexte plus de la société, plus global, plus général, mais c'est aussi un contexte de transformation du système éducatif. Parce que moi, j'ai commencé à travailler sur le coaching scolaire dans les années début des années 2010, voilà, puisque j'ai fait ma thèse entre 2007 et 2011, donc c'était vraiment l'émergence. Et donc, ces années 2010, c'est aussi le moment des réformes au niveau du lycée, de la réforme admission post-bac, appelée aujourd'hui Parcoursup, de la réforme du lycée. Et en fait, ces réformes-là, sont des réformes qui renforcent l'anticipation des choix au moment de l'orientation. C'est vrai que Parcoursup est un système de plateforme qui pose un certain nombre de questions, mais on ne peut pas penser Parcoursup et les effets, notamment vis-à-vis de l'émergence du coaching scolaire, sans le rattacher à la réforme du lycée, puisque c'est la réforme du lycée qui a détricoté les filières, filières littéraires, scientifiques, économiques et sociales, mais qui demande aux élèves de faire des spécialités dès la fin de la seconde. Mais ces spécialités sont en fait rattachées à Parcoursup. Et dans Parcoursup, les établissements, les formations d'enseignement supérieur peuvent conditionner leur algorithme avec ces spécialités. Pour le dire autrement, il y a des filières d'enseignement supérieur qui vont dire qu'elles vont favoriser l'entrée dans leur filière aux futurs étudiants qui ont pris au moment du baccalauréat, en première ou en terminale, des spécialités qui, selon elles, correspondent bien à leur formation, qui sont pensées comme étant des prérequis à leur formation ou qui sont aussi des moyens de sélection, en fait, par des notes, etc., dans leur formation. Donc, ça aussi, ça participe et ça contribue à alimenter cette angoisse parentale autour des enjeux de la bonne formation qui va permettre la bonne insertion sur le marché du travail. Et cette bonne formation, entre guillemets, c'est aussi lié à l'orientation. C'est aussi un contexte où il y a un soutien non négligeable de l'État sur le secteur du soutien scolaire. Puisque en 2008, le CERC nous disait que le secteur du soutien scolaire, c'était environ 2,5 fois le budget du soutien scolaire public et le quart de celui des EP, puisqu'il s'élevait à 240 millions d'euros annuels. Le secteur du soutien scolaire, globalement, enfin pour tout le monde généralement, c'est... Ça se résume avec le recours à des cours particuliers, puisque vous le savez sans doute, quand on recourt à des cours particuliers, on peut bénéficier de déductions de crédit d'impôt, puisque ça rentre dans le champ du soutien scolaire et donc ça peut rentrer dans le champ de l'aide à la personne. Voilà. Et donc c'est à ce titre-là qu'il y a des dégrèvements d'impôts ou du crédit d'impôt. Et en fait, au cours de mon travail, effectivement, au début de ma thèse, voilà, les coachs scolaires ne pouvaient pas bénéficier de ces avantages fiscaux, mais ils ont aussi trouvé des formes d'astuces, notamment pour certains, en intervenant au domicile des jeunes et en déclarant comme relevant du soutien scolaire et pas spécifiquement du coaching, mais du soutien scolaire en général, et donc vont répondre aux exigences étatiques permettant de pouvoir bénéficier ensuite, enfin de faire bénéficier aux familles ces avantages fiscaux. On pourra revenir après un petit peu là-dessus, notamment sur ce que ça peut produire. Donc si les coachs ont ce type de stratégie, c'est bien aussi parce que ils perçoivent le coaching scolaire comme un marché à prendre, mais aussi un marché en développement. C'est une niche dans laquelle, pour eux, il est important de se positionner, où ils peuvent se positionner en tout cas, parce qu'en fait, comme le montrent les travaux de Scarlett Salman, le coaching, en général, le coaching d'entreprise, en fait, et le marché des coachs d'entreprise est quand même un peu saturé. Au moment des années 2010, c'était un marché qui commençait à être un peu saturé. Et à ce moment-là, on a vu apparaître tout un ensemble d'autres sortes de coaching, comme le life coaching, donc le coaching de vie, le coaching scolaire. Et puis, on voit que petit à petit, il y a une spécialisation dans le coaching, puisque aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas quand j'ai fait ma thèse, aujourd'hui, on peut parler même de coaching d'orientation. Donc, c'est une nouvelle niche dans cette niche du coaching scolaire. Alors, comment j'ai pu mesurer... Alors, ce n'est pas des mesures très précises, mais j'ai quand même pu estimer... ce développement du coaching scolaire, notamment par en interrogeant les coachs et donc en leur demandant sur le nombre d'années depuis que vous avez commencé à exercer, quelles sont les évolutions de votre chiffre d'affaires, du nombre de jeunes que vous suivez. Donc c'est bien des estimations. C'est aussi en regardant les références au coaching dans des magazines de jeunesse, comme le magazine Phosphore, en fait, qui, au moment de ma thèse, parlait beaucoup du coaching, présentait des tests de personnalité, etc., faits par une coach scolaire. C'est aussi en regardant le nombre de certifications de coach professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de certifications délivrées. En m'intéressant aussi plus spécifiquement au DESU de coaching créé en 2003 à Paris 8. Donc ça, c'est d'un point de vue plus général. J'ai aussi regardé au sein de l'institution scolaire comment, dans l'école, on peut appréhender le fait qu'il y a un développement du coaching et du coaching scolaire. Travailler avec un chef d'établissement, notamment, qui me disait que dans son établissement, il y avait un dispositif qui s'appelait le dispositif ingénieur pour l'école, et c'était une coach qui intervenait. Donc, en fait, c'est des ingénieurs, le dispositif ingénieur pour l'école, c'est des ingénieurs qui sont détachés de leur entreprise et qui interviennent dans les établissements scolaires auprès des élèves, notamment pour travailler sur l'orientation. Et il y avait notamment une ingénieure qui était formée en coaching et qui proposait du coaching scolaire au sein de l'institution scolaire. Et c'est l'institution scolaire qui, en fait, paye l'entreprise de l'ingénieur qui est détaché. C'est un dispositif qui coûte de l'argent à l'institution scolaire. Donc ça montre aussi comment cet accompagnement de la scolarité n'est pas que un accompagnement privé, mais aussi un accompagnement qui est soutenu par les pouvoirs publics, tant, comme j'ai dit, sur les dégrèvements d'impôts pour quand c'est des familles et que c'est la sphère privée qui le convoque, mais aussi, comme là, pour les ingénieurs pour l'école, où c'est l'État, enfin l'institution scolaire, qui va soutenir financièrement. Et puis, Dans le cadre d'une autre enquête que j'avais réalisée avec Agnès Van Zanten, d'ailleurs, dans des salons d'orientation, mais aussi auprès d'élèves de terminale dans 10 établissements franciliens. Et donc, on avait rencontré 1705 élèves entre 2012 et 2014. Et on leur avait demandé notamment est-ce qu'ils parlaient de l'orientation avec... avec qui ils parlaient de l'orientation, puisque c'était une enquête sur l'orientation des lycéens vers l'enseignement supérieur. Et on voit que 10% des élèves avaient déjà discuté avec un professionnel de l'orientation, mais extérieur au lycée. Donc, c'est-à-dire pas avec leur conseiller d'orientation, en fait. Donc, avec un coach, avec un psychologue, mais pas un personnel de l'établissement. Et 9% l'avaient fait plusieurs fois. Donc, c'était pas un accompagnement en une fois, quoi. Je vous l'ai dit rapidement, en fait, le coaching scolaire, et donc je me permets de revenir plus spécifiquement dessus pour que vous compreniez bien en quoi ça consiste et quels sont ses fondements, en fait, s'inscrit dans l'héritage, les outils et les objets du coaching d'entreprise. Mais on voit aussi que, tout comme pour les coachs d'entreprise hein, d'ailleurs, donc le coaching revendique des racines philosophiques, notamment, voilà, ils se revendiquent être des maïoticiens, puisque l'idée pour eux est de permettre aux personnes qu'ils accompagnent de se révéler elles-mêmes, de se connaître. Donc voilà, connais-toi toi-même de Socrate et pour eux, quelque chose est un peu présenté comme leur devise. Ensuite, voilà, l'étymologie du mot coach vient aussi du terme cocher, c'est-à-dire d'accompagner quelqu'un d'un point A à un point B. Et le coaching scolaire, c'est le coaching d'entreprise qui lui-même vient du coaching sportif, des entraîneurs sportifs. Les outils qui sont mobilisés sont ceux de la psychologie comportementale qui visent à adapter, comme le disent Robert Castel et Henriquez, à adapter le mieux possible les individus à la société en les rendant de plus en plus performants, maîtrisant les phénomènes, devenant ainsi maîtres d'eux-mêmes. Et on voit que les outils qui sont utilisés, là, qui sont mentionnés sur cette diapo, sont bien des outils issus de la psychologie comportementale, qui... alors, moi, je suis sociologue de formation, donc je n'émets pas de jugement sur ces outils, mais je sais aussi que dans le champ académique de la psychologie, ce sont des outils qui sont interrogés, en tout cas, qui ne sont pas... cas qui n'ont pas une place considérée scientifiquement légitime. Il s'appuie aussi sur des tests de personnalité et ce qui les amène très souvent, dans ce que j'ai pu observer, à un usage essentialisant, en fait. Que ce soit dans les observations que j'ai faites auprès de coachs, mais aussi dans les salons d'orientation, quand il y a des coachs scolaires qui ont présenté ce qu'ils faisaient aux parents, bien, en fait, par exemple, ce test de personnalité, RIASEC, qui veut dire en fait réaliste, investigateur, artiste, social, puis les deux autres lettres. J'ai un trou là, mais voilà, en fait, les coachs vont poser des questions et ils vont déterminer des profils à partir de ce test hein, qui a été élaboré par John Holland, qui en fait, il a élaboré ce test-là après la guerre d'Indochine pour permettre aux anciens soldats américains de pouvoir se réinsérer dans la société et de pouvoir retrouver une voie de formation. Et donc, on a des profils où on va dire après à la personne, toi, tu es plus artiste, tu as une dominante artiste, mais aussi sociale. Alors, après, bon, ils vont nous expliquer que artiste, ça ne veut pas forcément dire qu'on va, ça ne veut pas forcément dire que l'élève doit s'orienter dans un domaine artistique, mais en fait, c'est des domaines créatifs, inventifs, et que donc un ingénieur a aussi un profil artiste. Mais vous voyez que ça essentialise quand même. Vous avez tel profil, et donc si vous avez tel profil de personnalité, eh bien, il est préférable, en tout cas il est plus pertinent pour vous, de vous orienter vers tel ou tel champ de domaine professionnel. Dans ce qui est important aussi, en fait, dans la pratique du coaching scolaire, et ce qui fait aussi que un certain nombre de parents, et on verra lesquels, se tournent vers un coach et pourquoi leurs enfants acceptent de faire appel à un coach, c'est que le coach, même s'il utilise des outils venant de la psychologie comportementale, n'est pas psychologue, il n'a pas l'étiquette, et ça, dans tous les entretiens que j'ai faits avec les jeunes, c'était vraiment fondamental, parce que le psychologue avait une image, pour ces jeunes, une image renvoyée à une image négative, liée à la maladie, à la folie, voilà. Ce n'est pas non plus un enseignant, ce n'est pas l'enseignant de la classe, ce n'est pas l'enseignant qui va le noter, le juger, etc. C'est quelqu'un qui en fait, pour eux, est plus neutre. Ce n'est pas non plus le psychologue de l'éducation nationale ou le conseiller d'orientation, voilà, qui d'ailleurs reçoit souvent des retours négatifs du côté, en tout cas, des jeunes que j'ai rencontrés. Hein, et on pourra aussi en parler, enfin, j'en parlerai après. Et ce n'est pas non plus les parents, parce que les parents sont pris dans des enjeux, on l'a vu, hein, de stress, de tension. Et j'imagine qu'un certain nombre de vous ont pu aussi le vivre de façon plus personnelle. Quand il y a des enjeux affectifs, eh bien, travailler l'orientation avec son enfant, c'est pas forcément toujours facile, parce que, bah voilà, ces enjeux affectifs vont faire que les enfants vont pas forcément entendre tout à fait la parole des parents de la même manière que si c'était quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui externalise aussi toutes ces discussions et ces enjeux, ou en tout cas, il y a une part d'externalisation qui fait que pour les parents et les jeunes, encore une fois, que j'ai rencontrés, hein, qui se sont fait accompagner, qui fait que ensuite, quand ça revient au sein de la famille, les choses peuvent être un peu moins tendues. Je vais avancer un peu, peut-être un peu plus rapidement. Les objectifs du coaching, en fait, quand j'ai fait ma thèse et que j'ai dépouillé donc ces dossiers de coach, on voit déjà que l'orientation scolaire et professionnelle, même si on ne parlait pas spécifiquement de coaching scolaire, était quand même déjà dominant. Puis ensuite, l'acquisition d'une méthodologie de travail, la motivation, l'amélioration des résultats, la confiance en soi, la gestion du stress. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que la recherche de performance est quasiment pas mentionnée. Alors, de prime abord, ça peut paraître étonnant, mais en fait, on voit qu'elle est, que c'est un objectif, mais qui n'est pas mentionné explicitement, qui est plutôt caché, puisque en fait, parler de recherche de performance renvoie pour un certain nombre de jeunes à quelque chose comme étant « je vais écraser les autres », mais on va le voir aussi, c'est en fait une recherche de performance vis-à-vis de soi-même, de se dépasser soi-même, ce qui peut aussi produire d'autres effets. Pardon. On voit qu'il y a des caractéristiques sociales homogènes parmi les personnes qui recourent au coaching scolaire, non seulement du côté des coachs, mais aussi, on le verra, du côté des coachés. Pour les coachs scolaires, Il y a une très forte proximité avec le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Leurs pères ont été indépendants, ont eu des responsabilités dans une entreprise. Pardon. Et puis, ce qui est intéressant quand même, et je ne peux pas ne pas le mentionner, c'est que parmi les coachs scolaires que j'ai rencontrés, il y a une très forte majorité de femmes. Et quand on fait de la sociologie de l'éducation, ça rejoint ce que disait l'intervention précédente aussi. Cette question éducative, scolaire, est quand même beaucoup plus prise en charge par les femmes. Donc, ce n'est pas tellement étonnant non plus qu'on y trouve le plus de femmes dans ce pan du coaching. On voit aussi que si les parents des coachs venaient du monde de l'entreprise, on voit que les coachs eux-mêmes viennent du monde de l'entreprise, puisqu'ils ont été cadres, administratifs, ingénieurs, ont exercé des professions libérales. Il y a très peu de... vous voyez, il n'y a qu'une seule personne qui avait exercé une profession dans le champ de l'information, des arts et du spectacle, donc le pan culturel des classes moyennes est peu représenté. Alors, ce qui m'a intéressé, ce que j'ai développé donc dans mon livre, ce qui est une évolution de ma thèse, puisque je ne l'avais pas écrit comme ça dans ma thèse, c'est que dans cet ouvrage, je me suis en fait intéressée à l'expertise, au fondement de l'expertise de la professionnalité des coachs, en m'appuyant sur les travaux de Robert Castel, qui présente les experts instituants. Il y a plusieurs profils de coachs et plusieurs registres d'expertise des coachs. Le plus important, celui qui est le plus souvent mentionné, c'est l'expertise du monde de l'entreprise. Et cette expertise du monde de l'entreprise, le fait de venir du monde de l'entreprise, est véritablement présenté également comme un fondement de leur légitimité pour accompagner les jeunes dans l'orientation, c'est que connaître l'entreprise, ça permettrait de mieux accompagner les jeunes à s'orienter dans le monde du travail. Tout se passe comme si le vrai monde du travail, c'est le monde de l'entreprise. C'est un monde, c'est un champ du monde du travail, mais ce n'est pas l'unique non plus. On voit que, de ce fait-là, ces coachs qui se présentent comme des experts du monde de l'entreprise produisent des critiques en fait, envers l'école. Voilà, donc l'école ne serait pas suffisamment compétente pour accompagner à l'orientation parce que les acteurs de l'orientation au sein de l'institution scolaire, en fait, sont des fonctionnaires qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, pour le dire rapidement. On voit aussi que ces coachs permettent aux jeunes de produire des projets d'orientation conformes aux aspirations parentales en termes de statut social. C'est-à-dire que quand j'ai fait les entretiens avec les coachs, mais aussi avec les coachés, ils vont dire que le coaching a permis de ne pas répondre aux aspirations parentales, que d'ailleurs ça a pu créer des tensions, etc. Mais finalement, si on regarde plus finement, quelles étaient les aspirations parentales et quels sont devenus les projets d'orientation formulés par les jeunes à l'issue du coaching? Eh bien, une jeune me disait, mon père voulait que je fasse une école de commerce et finalement, je fais Sciences Po. Où je fais Sciences Po et en fait je vais plutôt faire une école de commerce intégrée. Oui, on n'est pas tout à fait sur le même type d'orientation en termes de contenu de formation, mais on est quand même sur des aspirations qui sont socialement proches, quoi, et socialement acceptables, parce qu'après, quand je poursuis et que je dis, bah, et si tu avais dit que, je sais pas, tu voulais faire un métier plutôt manuel, etc. Ah ben non, ça n'aurait pas été possible. Caissière, c'est sûr que c'est pas un projet d'orientation socialement acceptable. Enfin, c'était l'exemple qu'elle avait pris. Et justement, en parlant des projets d'orientation plutôt manuels, aussi, il y a des coachs qui vont dire, ben voilà, ça rompt avec les aspirations, les attentes parentales, parce que moi, j'ai des jeunes qui, à l'issue du coaching, en fait, ils étaient scolarisés dans des écoles de commerce, mais à l'issue du coaching, ils se plaisaient pas dans ces institutions. Et à l'issue du coaching, ben, ils sont devenus menuisiers. Ils ont fait un CAP ou un bac pro. Voilà. Mais là aussi, et c'est, enfin, voilà, ce qu'on fait quand on est sociologue, ben c'est OK, mais c'est quel bac pro ou pour faire quoi, en fait, avec le bac pro? Mais en fait, c'est pour devenir menuisier d'art. C'est pour intégrer la grande école de pâtisserie privée, Farangi, de Paris. C'est pour devenir restaurateur ou restauratrice de tableaux. Donc là aussi, on est sur des métiers manuels, mais qui sont extrêmement valorisants, qui appartiennent à un registre socialement acceptable pour les familles et qui sont aussi, en fait, restaurateurs, restauratrices. C'est aussi très sélectif. Hein, voilà. Il y a aussi le deuxième registre, c'est qui est moins représenté dans mon panel, parce qu'en fait, voilà, comme la très grande majorité vient du monde de l'entreprise, c'est ce registre-là de l'expertise qui écrase un petit peu les autres, mais néanmoins, il y a d'autres registres d'expertise qui existent. C'est l'expertise de professeur principal, se tourner vers le coaching, devenir coach pour s'outiller, pour orienter ses élèves. Là, j'ai pris le portrait d'un enseignant professeur d'éducation physique et sportif, mais là aussi, pas dans n'importe quel secteur. Il était enseignant dans le privé, donc ça fait aussi un peu écho avec ce que disait le collègue tout à l'heure. Pas le même rapport à la formation, pas le même rapport aux élèves. Voilà. Et où dans le privé, il y a aussi une très forte croyance dans l'entreprise de soi et en l'individu. Voilà. Par exemple, moi, j'avais rencontré une chef d'établissement d'un lycée privé où la conseillère d'orientation s'était formée au coaching, et il y avait tout un discours sur l'orientation qui était tourné, même d'un point de vue de l'étymologie du mot orientation, autour du développement personnel. Que l'orientation, en fait, ça vient du mot orient et que c'est se tourner vers la lumière. Donc, c'est trouver sa propre lumière, sa propre voie. Donc, vous voyez que je ne dis pas que des chefs d'établissement du public ne tiendraient pas ce discours-là, ça peut être possible. Mais en tout cas, parmi tous ceux que j'ai rencontrés dans le cadre des enquêtes faites avec Agnès Ondantaine, c'est bien dans des établissements privés qu'on m'a tenu ce type de discours. C'est aussi, et là c'est vraiment aussi pour se distinguer sur le marché du coaching. J'avance. Il y a quelques coachs, mais encore moins que précédemment, donc en fait c'est à chaque fois, c'est dégressif, qui eux fondent leur expertise sur leur propre expérience de l'école élémentaire, avec la nécessité pour eux de répondre aux spécificités des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais là aussi, on voit que c'est des enseignants de l'élémentaire qui ont un profil particulier, puisque, par exemple, c'est quelqu'un qui a démissionné de l'éducation nationale, qui ensuite a travaillé dans une école internationale en Suisse. Voilà, donc il y a un parcours un peu spécifique. Et pour elle, ce qui était important, c'était de ne pas faire entrer dans le moule des élèves différents. Donc elle était plus sur les processus d'apprentissage. Et un petit peu le pendant de ce registre d'expertise, c'est aussi celui des coachs qui, en tant que mères, se tournent vers le coaching, deviennent coach, parce qu'elles disent, ben moi, en tant que mère, ou en tant que... En tant que maman pour mes propres enfants, mais aussi pour les enfants qui étaient dans l'entourage de mes enfants, eh bien, j'ai beaucoup discuté avec ces jeunes qui étaient en difficulté, notamment dans les manières d'apprendre ou dans leur orientation. Et donc, c'est en tant que mère, ayant développé une petite expertise parentale au sein de son foyer, que je vais en faire une profession. Il y a le pendant, c'est celui de l'expertise et de la professionnalité. Donc on voit que les fondements de l'expertise et de la professionnalité des coachs scolaires rejoignent tous ces registres d'entreprise de soi, d'aide débrouillard, ont un effet peuvent l'avoir les registres tenus par les entrepreneurs de la morale familiale. Et le pendant des coachs, c'est regarder les dispositions au coaching scolaire. Je le dis très rapidement, là aussi, on a des jeunes qui viennent du pôle privé des classes moyennes. Leurs parents, en fait, ressemblent, ont des caractéristiques sociales très proche des coachs. On voit que c'est le pôle des technocrates qui domine fortement. Donc ce sont des jeunes en fait qui ont un fort capital économique, mais dont les parents ont en fait ont du capital culturel, mais quand même moins important que les parents qui viennent du pôle public des catégories supérieures des classes moyennes. Donc, pour le dire autrement, ce n'est pas tellement les enfants d'enseignants qu'on retrouve chez les coachs scolaires. Ce sont en fait des élèves aussi fragiles qui, de par leurs résultats scolaires, justement mettent en péril le maintien de leur statut social, puisque ce sont des élèves qui ont plutôt entre 8 et 12 de moyenne. Et donc, pour atteindre des places de cadre, enfin, en tout cas pour atteindre des orientations qui a priori permettent d'atteindre des places de cadre, eh bien, notamment les classes prépa, les grandes écoles, eh bien, c'est un peu fragile d'être pile autour de la moyenne. Et on voit que l'orientation plus développée est considérée comme un enjeu plus fort pour les garçons, alors que la confiance en soi est un enjeu plus fort pour les filles. Et là aussi, il y a des dispositions qui sont présentes chez les jeunes et qui font complètement écho à celles qui sont convoquées dans le coaching. Les dispositions à se faire accompagner, ce sont des jeunes qui sont OK pour se faire accompagner, mais par contre, voilà, il ne faut pas non plus que ce soit un psychologue, mais ils sont d'accord pour parler d'eux-mêmes, sur eux-mêmes. Ce que dit une coach, c'est des jeunes qui ont baigné aussi dedans, quoi. C'est des jeunes qui cherchent à dépasser leurs limites. Donc en fait, ce registre de la performance se décline comme cela. Il faut se dépasser soi-même. Ce sont des jeunes qui font beaucoup de sport, ce qui correspond un peu au canon éducatif des classes moyennes supérieures, qui s'inscrivent dans les compétitions sportives pour se dépasser, qui ont bénéficié de stratégies de clôture sociale, comme le recours à des spécialités, des options, mais aussi à des établissements privés sous contrat. Et donc, formulent des vœux socialement acceptables. Le coaching permet de formuler des vœux socialement acceptables pour leurs parents et pour eux-mêmes aussi, certainement. Ce sont des jeunes qui recherchent l'autonomie. L'autonomie est présentée comme un peu quelque chose à atteindre. Voilà, il faut pouvoir faire seul, il faut aller de l'avant, il faut foncer, il faut être maître de son destin, il faut se prendre en main. Et donc, en fait, toutes ces postures que ces jeunes ont vis-à-vis d'eux-mêmes, eh bien, répondent complètement aux attentes du coaching, en fait. Voilà. Et le coaching est aussi perçu comme un moyen est mis au service de son propre épanouissement personnel. Voilà, c'est des jeunes qui peuvent dire qu'ils avaient des doutes, qu'ils n'étaient pas épanouis, mais que en fait, le coaching, c'est un espace qui leur a permis de pouvoir trouver de l'épanouissement personnel dans leur orientation. Et vous voyez, on revient aussi aux vœux socialement acceptables et aux vœux d'orientation, à une orientation, même quand il peut y avoir un peu un déclin social au départ par la formation, eh bien, qui est réenchanté. On le voit dans ce qu'elle dit. Elle dit, moi, en fait, je fais du chant lyrique et le coaching, ça m'a permis d'articuler mes aspirations, ma formation, mes expériences professionnelles. Et donc, elle développe des chorales en entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le coaching, c'est d'articuler des formations, des diplômes avec les loisirs, les passions surtout, pas les loisirs, les passions. Voilà, donc le coaching devient une révélation de soi. Donc, pour conclure, on voit que le coaching scolaire est un marché éducatif qui est soutenu par les pouvoirs publics, on me pose la question de l'efficacité de l'accompagnement versus la production ou le renforcement des inégalités. Pour moi, la question de l'efficacité de l'accompagnement, en fait, on ne compare pas, si on compare l'accompagnement d'un coach et l'accompagnement d'un psychologue de l'éducation nationale, on ne compare pas deux choses qui sont comparables, ne serait-ce que par le cadre dans lequel ces accompagnements s'exercent. Un coach accompagne à peu près en moyenne une centaine de jeunes par an. Un conseiller d'orientation, un psychologue de l'éducation nationale, un bassin d'intervention de 1500 jeunes. Donc, vous voyez qu'on est à des échelles totalement différentes. Et donc, quelque part, quand vous avez un jeune qui va discuter avec un adulte qui n'est pas ses parents, pas son prof, etc., qui est en tiers, pendant à peu près 8-10 heures, parce que c'est la durée du coaching, où il parle de lui, où il est écouté, où il se sent considéré en dehors de tout enjeu affectif ou scolaire, de façon individuelle, quelque part, je dirais que ça ne peut que produire quelque chose, au-delà même du cadre des outils qui sont utilisés. Et donc, ça revient complètement à ce que vous disiez en introduction, c'est des choix politiques, des choix de société. Est-ce qu'on est sur des accompagnements qu'on veut individuels ou efficaces pour l'individu, ou est-ce que on est sur des accompagnements qui vont permettre à amener une classe dans sa globalité et essayer de réduire les inégalités sociales. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.